On vit des moments un peu particuliers, hein, d'une manière générale, dans cette église, parce que les circonstances nous conduisent ici à Angers à réfléchir sur ce qu'est l'église. C'est le thème récurrent depuis ce début d'année. Et on a un projet immobilier. Et le projet immobilier qui mobilise notre attention depuis plusieurs années maintenant est en passe de se concrétiser. On a pu se demander pendant un moment... Qu'est-ce que ça allait devenir, tout ça? Pendant pratiquement 2 ans, on n'avait plus vraiment d'éléments qui nous permettaient de communiquer sur ce sujet. Et puis, hop, d'un seul coup, voilà que les choses se remettent en route et de manière assez surprenante. On ne va pas revenir sur ce que Daniel nous a présenté la semaine dernière, mais c'est vraiment très encourageant. Vous savez que ce projet immobilier, il a été conduit par la nécessité, parce que l'investissement que représente l'entretien... Et la mise aux normes de ces locaux actuellement, c'est beaucoup trop coûteux. Ça reviendrait à trop cher pour un gain qui serait quasi nul. Un gain en espace qui serait quasi nul pour un gain en confort qui serait pas très important. Ça nous rappelle une chose, ça. Ça nous rappelle que tout passe. Ça nous rappelle que tout est périssable. Je comprends qu'on puisse être attaché à ces lieux dans le sens où ça fait 45 ans qu'on est là. Il y a des personnes parmi nous qui ont connu l'église d'avant, rue Maillet, et qui sont venues là, qui se sont réjouies de venir ici. Mais vous savez que l'église rue Maillet, elle n'existe plus. Hein. C'est autre chose maintenant. Et il y a de fortes chances qu'ici, ce soit aussi autre chose. Parce que tout passe. Tout est périssable. Rien ne subsiste. Et vous savez, là, on ne sait pas encore exactement où sera située l'église prochainement. Mais ce que je suis sûr, c'est que là où nous serons prochainement, un jour, ça n'existera plus non plus. C'est comme ça dans ce monde. Il y a quelque chose peut-être sur lequel nous devons nous réunir en particulier, c'est de comprendre que ce projet immobilier, ce n'est qu'un aspect du projet que Dieu a pour cette Église. Ce n'est pas un but en soi. Des murs ne peuvent pas être un but en soi. Dans une perspective biblique, dans une perspective spirituelle, un local, c'est un outil. C'est un outil, ce n'est pas un objectif en soi. Comme ce lieu a été un outil pendant 45 ans. Et on fait en sorte que ce soit évidemment un endroit qui soit accueillant, agréable, fonctionnel. Mais dans tous les cas, ça reste un outil. C'est un support qui nous permet notamment de pouvoir partager l'Évangile, qui nous permet de nous retrouver, qui nous permet de nous édifier ensemble. Et le prochain lieu, ce sera également un outil. Alors, ce qu'on espère, évidemment, que ce sera un outil qui soit plus performant que celui que nous avons actuellement, mais ce sera un outil aussi pour un temps, comme ce local actuellement. Je ne crois pas que Dieu soit tellement intéressé par les murs. Je ne pense pas que Dieu... Et c'est assez intéressant de voir bibliquement ce qui s'est passé par rapport au temple. Parce que quand on lit l'histoire du temple, c'est David qui a eu l'idée du temple. Alors, Dieu l'a accepté. Parce que ça donnait aussi la possibilité au peuple d'Israël de se rassembler. Et on sait que la volonté de Dieu, c'est de voir ses enfants concrètement se rassembler, être ensemble. Et monter à Jérusalem pour adorer au temple, ça donnait l'occasion au peuple de se rassembler. C'est ce que nous faisons maintenant dans le cadre de la Nouvelle Alliance, quand nous nous rassemblons en église, le dimanche matin, mais aussi à d'autres moments. Mais fondamentalement, Dieu n'a pas besoin d'un mur pour manifester sa présence. Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé à la relation avec les gens. Il est intéressé par les gens plus que par les murs. Et à la relation avec les gens, plus qu'à un temple. Et d'ailleurs, le temple de Jérusalem, Jésus a dit lui-même qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui restera. Alors pourtant, on a vu la semaine dernière que c'était un monument magnifique, un monument qui suscitait l'admiration des juifs et même des non-juifs, tellement c'était un monument splendide. Et puis, il a disparu, comme Jésus l'avait annoncé. L'avenir de l'Église concerne plus les gens que le lieu où elle se réunit. On a besoin d'outils, on a besoin de lieux qui nous permettent de concrétiser ce rassemblement que nous constituons ensemble en tant qu'Église. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est le temple que nous constituons. L'Église est le temple du Saint-Esprit. On en a parlé ces 2 derniers dimanches. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est... une question peut-être qui va nous aider, ou des questions qui vont nous aider à nous projeter ensemble. De quoi l'Église a-t-elle besoin pour envisager son avenir? Sur quoi est-ce qu'elle peut se fonder pour pouvoir se projeter. L'Église étant le projet de Jésus, comment s'y est-il pris pour préparer la mise en place de l'Église? On va ensemble s'intéresser à cette question. On va évidemment scruter les textes bibliques pour cela et on va particulièrement s'intéresser au livre des Actes. Parce que si on veut apprendre des choses sur l'Église, si on veut être au plus proche de la vision que Dieu et que Jésus ont eue pour l'Église, c'est évidemment dans le livre des Actes qu'on va pouvoir trouver des éléments, parce que le livre des Actes nous raconte comment l'Église s'est mise en place, comment elle s'est développée. Alors la première chose dont l'Église a besoin pour pouvoir se projeter, c'est d'explication. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et après sa résurrection, Jésus est apparu pendant 40 jours. Et durant ces 40 jours, il est apparu à ses disciples, il a enseigné ses disciples, il a enseigné les apôtres. C'est ce que nous lisons au chapitre 1, verset 3 du livre des Actes. En effet, après sa mort, c'est à eux, ses disciples, les apôtres, qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Jésus prend le temps d'expliquer aux apôtres, à ses disciples, en quoi consiste le royaume de Dieu, qui va être le sujet de leur prédication, qui va être le sujet de leur proclamation. Et on peut se faire une idée de l'enseignement qui a été donné par Jésus sur le royaume de Dieu pendant cette période de 40 jours en lisant des textes qu'on trouve dans le livre de Luc. Dans Luc, on a des apparitions de Jésus qui nous sont racontées, et notamment, vous savez qu'il va apparaître à deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. C'est dans Luc chapitre 24. Et puis, alors qu'il rejoint ces deux personnes qui vont sur le chemin d'Emmaüs et qu'il se révèle à eux, il leur dit: « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse, ce qui correspond aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Pentateuque, et en continuant par tous les livres des prophètes. Et lorsque Jésus va apparaître à tous les disciples réunis, quelques heures plus tard à Jérusalem, les versets 44 et suivants, il dit aux disciples réunis: « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans toute la Bible. Tout cela devait se réaliser. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit: « Voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement, à se repentir et à recevoir le pardon des péchés. » Une explication biblique qui va être à la base de leur envoi en mission, qui va être à la base de la constitution de l'Église. Jésus veut que ses disciples qui vont composer l'Église comprennent bien son projet avant de les impliquer. Et son argumentation, elle est biblique. Il revient aux Écritures. Il amène les disciples à scruter les Écritures pour pouvoir avoir une base solide de leur action. Et il leur dit qu'ils vont entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle étape de leur histoire. Et ils vont avoir la responsabilité d'annoncer que Dieu règne. Et que la porte de ce royaume, c'est lui-même, parce qu'il est au centre des Écritures. Il dit, ça y est, l'Écriture, elle est accomplie. Au travers du sacrifice que j'ai fait pour le salut des hommes, l'Écriture est accomplie. À vous de proclamer, de diffuser ce message maintenant. Les disciples avaient déjà entendu Jésus dire cela. Ils avaient déjà entendu Jésus parler du royaume de Dieu. Ils avaient déjà entendu parler de cet accomplissement des Écritures. Il y a plein de choses qu'ils savaient déjà. Et certains, là, dans ce qu'il a pu partager dans cette période de 40 jours, il y avait des choses qu'il avait déjà eu l'occasion de partager avec ses disciples. Il avait déjà annoncé sa mort, sa résurrection. Mais il y revient. Et il y revient en se fondant sur la parole. Jésus ouvre la Bible avec eux pour poser les fondamentaux sur lesquels va se former la nouvelle communauté constituée de tous ceux et de toutes celles qui laisseront Dieu régner sur leur vie, qui accepteront le royaume de Dieu. Et qui vont former l'Église, qui vont former cette nouvelle communauté. En abordant ce thème de l'Église, comme on le fait ensemble depuis plusieurs dimanches, on pose les fondamentaux. On fait la même chose que ce que Jésus a fait après sa résurrection avec les disciples. On revient à la parole, on revient aux Écritures, et on le fait ensemble encore ce matin. Et on revient à toutes ces choses qui sont absolument essentielles de connaître et de savoir lorsqu'il s'agit de l'Église. Ulrich nous a entretenu en particulier sur l'unité que nous étions appelés à former, avoir cette vision de l'unité. Et je pense que les dons spirituels qui ont été partagés ce matin nous encouragent encore à aller dans cette voie. On a vu que l'Église, c'était une réalité collective, c'était un rassemblement. Personne ne peut dire « je suis l'Église », mais nous ne pouvons que dire « nous sommes l'Église ». Parce que l'Église, elle est le fruit d'une convocation divine, d'une sainte convocation. L'Église, c'est le lieu de la présence divine, le temple, comme Daniel aussi nous l'a expliqué. C'est le temple qui est fondé sur une pierre de fondation, Jésus-Christ, qui est celui qui détermine notre identité. On a vu ça aussi. On a vu aussi que l'Église, c'est un temple dont nous formons les pierres, et que chaque pierre doit s'agencer avec les autres, que ce temple, nous l'édifions, nous le construisons sur une base qui est Jésus-Christ, qui est la parole, mais que nous partageons une responsabilité en tant que pierre de cet édifice. Et on pourrait trouver la même analogie dans l'image du corps, en tant que membre de ce corps. On revient à tous ces fondamentaux. Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle étape de l'histoire de notre Église locale, il convient que nous nous réunissions, et que nous nous réunissions sur une vision claire de ce que sont l'Église et sa mission. Parce que de cette compréhension dépendra notre action. Pour ça, il est nécessaire de revenir à la parole. Parce que la parole, c'est la source de la vérité. La parole, c'est vraiment tout ce qui doit être la fondation de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie collective, de notre vie communautaire. Et il faut que nous nous laissions inspirer par cette parole pour pouvoir bâtir une Église qui soit la plus proche possible de la volonté de Dieu. C'est pour ça que revenir au livre des Actes, c'est très inspirant, parce qu'on voit comment l'Esprit agit, on voit sur quoi les disciples ensemble se sont réunis, sur quoi ils ont constitué leur unité, et ce qui leur a donné la base de leur action. Et c'est ce que nous faisons là, dimanche après dimanche. Et c'est une invitation vraiment à se mettre à l'écoute de la parole. Parce que on sait, pour certains d'entre nous, ça fait des années et des années qu'on est converti, on a une image assez précise de ce qu'est l'Église. Mais on a toujours besoin d'être renouvelé dans notre vision des choses. Vous savez, quand on considère quelque chose d'acquis, on a commencé à le perdre. Si à un moment donné, on n'y revient pas, si on n'alimente pas notre compréhension des choses, c'est un peu comme si, comme on dit, on reste sur nos acquis. Et c'est jamais trop bon, on a besoin d'avancer, on a besoin de se renouveler, on a besoin de réfléchir. Et là, ensemble, on est en train de reposer tous les fondamentaux sur lesquels on va pouvoir entreprendre l'avenir de cette Église et aller de l'avant. La deuxième chose dont l'Église a besoin et que Jésus fournit à ses disciples dans cette période, c'est la correction. Alors, ce n'est pas correction dans le sens de châtiment, ce n'est pas ça. C'est plutôt correction dans le sens de réorientation. On pensait quelque chose, mais finalement, ce que l'on pensait, il faut qu'il soit un petit peu réajusté, réorienté. Et Jésus n'hésite pas à corriger les pensées personnelles que les disciples pouvaient avoir sur le royaume de Dieu. Quand Jésus annonce la venue du Saint-Esprit, les apôtres pensent que le royaume d'Israël va être restauré. C'est ce que nous lisons dans les versets suivants, à partir du verset 4 de Acte 1, toujours. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Pour eux, le royaume de Dieu, c'est le royaume d'Israël, qui sera rétabli par le Messie. Les Juifs attendaient un sauveur, quelqu'un qui viendrait pour rétablir l'ancien royaume d'Israël. Ils pensaient que les Judéens seraient libérés du joug des Romains qui dominaient la région, que ce serait le retour à l'indépendance nationale et que le pays serait gouverné par le Messie, un descendant du roi David, et qui aurait la toute puissance envoyée par Dieu, quelqu'un d'invulnérable et qui assurerait la prospérité du royaume d'Israël. Le royaume de Dieu sur terre, c'est leur idéal du royaume de Dieu. On voit comment les disciples se font une idée bien à eux du royaume de Dieu. Un royaume dans lequel, certainement, il y aurait une solution à tous les problèmes. Si c'est le Messie qui règne sur Israël, bah déjà, c'est un Messie qui peut multiplier les pains. Tout le monde aurait à manger. Il peut changer l'eau en vin. Tout le monde pourrait boire du vin. il aurait une réponse à tout. Il y aurait une réponse à tout. Il jugerait comme Salomon. Il aurait la puissance de David. Il y aurait une solution à tout. Et forcément, eux, ils sont juifs. Alors, Israël, ça les concerne. Et pour eux, la meilleure solution serait que les choses se passent comme ça. Mais Jésus leur dit que ce n'est pas pour maintenant tout ça, que cet idéal il sera pleinement réalisé, mais plus tard, à un moment que Dieu seul connaît. Mais pour le temps présent, dans le cours desquels les choses restent encore imparfaites, Jésus pose clairement les fondations sur lesquelles les disciples doivent être d'accord. On a certainement, les uns et les autres, rassemblés ici ce matin, une image de ce que serait l'Église idéale. Finalement, c'est ça, hein, les disciples disaient « Waouh, le royaume de Dieu, ça, ce sera quand il y aura le Messie, tout ça. » Et les uns et les autres, on a une image de ce qui serait la meilleure Église. Et cette image, elle dépend grandement de nos préoccupations. Elle dépend grandement de ce que nous avons à cœur de faire. Elle dépend aussi de ce que Dieu nous a mis à cœur de notre appel. Ce qui fait que comme on n'a pas tous le même appel, comme on n'a pas tous les mêmes préoccupations, on a chacun un modèle de ce qu'est l'Église, de ce que pourrait être l'Église parfaite, l'idéal, l'Église idéale. Si on est porté à l'adoration, si on aspire à rencontrer Dieu, à la présence de Dieu telle qu'elle se manifeste dans l'adoration, l'Église idéale, ce serait une Église qui favorise l'adoration par la qualité de la musique, par la qualité des chanteurs, des leaders. On s'attend à ça. Voilà. Moi, mon Église idéale, c'est ça. Si on a à cœur le partage de l'Évangile, l'Église idéale, c'est une Église où tous les chrétiens se mobilisent lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation qui sont organisées, des campagnes de guérison, ou alors c'est des chrétiens qui vont dans la rue pour pouvoir faire connaître Jésus. Ce serait ça l'Église idéale. Si on est convaincu de l'importance de bien connaître la Bible, si on aime la parole, à ce moment-là, notre Église idéale, c'est une Église où l'enseignement des textes doit être approfondi, où on prend le temps pour ça. Si on a à cœur l'appel de Dieu à venir en aide aux plus démunis, l'Église idéale, ça va être une Église engagée dans l'action sociale. Si on a à cœur de tisser des relations de qualité, l'Église idéale, à ce moment-là, c'est une Église qui permettra aux gens de se rencontrer et de passer du temps ensemble, par tranche d'âge, par intérêt commun, ou alors dans le cadre d'activités intergénérationnelles. Mais moi, je crois que cette Église-là, il n'y a que dans le ciel qu'on la verra. Parce que l'Église idéale, en fait, c'est une Église qui permet tout ça, qui permet chacun de ces aspects. Donc sans doute, vous n'avez pas tort quand vous dites que l'Église idéale, c'est celle qui correspondrait à mon aspiration, à la vision que j'ai. Mais le problème, c'est qu'elle ne pourra pas être que cela. Et ça, comme Jésus a fait la réponse aux disciples, ça viendra, cette Église idéale, elle viendra, mais ce sera dans le ciel. C'est quand Dieu règnera sur cette terre. Il y a un homme politique allemand qui a été chancelier de l'Allemagne dans la période après-guerre, qui s'appelle Konrad Adenauer. Et il a eu cette phrase que je trouve extrêmement intéressante, et que je vous laisse, vous pourrez méditer dessus. Hein. Il a dit « Nous vivons tous sous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même horizon. » C'est logique, très pertinent et très profond. D'où la nécessité pour nous, en tant qu'Église, de se regrouper sur une vision. Une vision qui soit fondée sur la parole, mais une vision qui va déterminer l'orientation, qui va déterminer les orientations de notre action, de nos actions, de nos engagements. C'est important qu'on puisse se regrouper sur cette vision. Et c'est justement ce que Jésus propose dans les versets suivants. Jésus conclut avant de s'élever vers Dieu en appelant les disciples à s'unir autour d'une vision. Troisième élément, ce dont a besoin l'Église pour pouvoir se projeter. Verset 8, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. On voit que la vision des disciples, elle a été très rétrécie, elle était assez locale, parce que pour eux, le royaume de Dieu, c'est le royaume d'Israël. Mais Jésus dit non, oh là là, il va falloir voir beaucoup plus loin. Là, vous êtes en train de regarder, vous êtes sur le rivage et vous voyez les premières vagues qui s'abattent sur la grève. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de regarder l'horizon. C'est de porter votre regard beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et il leur laisse cette vision-là. La vision, ce n'est pas quelque chose qui vous amène à vous concentrer sur les choses qui vous concernent. Mais vous êtes appelé à faire cet effort de regarder beaucoup plus loin. Voilà l'objectif sur lequel vous devez vous concentrer. Voilà le but à atteindre. Voilà ce qui va vous motiver. Voilà ce qui va vous pousser en avant. Et cette vision, c'est celle qui est décrite et qu'on voit vivre, se mettre en application tout au long du livre des Actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, le livre des Actes commence à Jérusalem. En Samarie, c'est au chapitre 8, on voit l'évangile qui touche la Samarie, notamment par l'intermédiaire du ministère de Philippe. Et jusqu'aux extrémités du monde, dans la mentalité de l'époque, l'extrémité du monde, c'était Rome. Et si vous poussez jusqu'à la fin du livre des Actes, il se termine à Rome, là où Paul annonce l'évangile, dans la maison où il est. Ils ont accompli cette vision, parce qu'ils se sont fondés sur cette parole qui leur a été laissée par Jésus. Alors la vision de cette église, vous la connaissez, hein. Elle nous a été partagée déjà par Daniel. C'est celle de la multiplication. Et c'est très réjouissant parce que, en fait, c'est pas quelque chose comme ça qui est sorti de l'imagination de Daniel. On sait d'ailleurs que c'est fondé sur la succession des générations, des patriarches. C'est comme ça que les choses lui ont été communiquées par Dieu. Mais cette vision de la multiplication, c'est exactement la vision qu'on trouve décrite dans les Actes des apôtres. Cette vision, elle est biblique. Elle est fondée bibliquement. Le désir de Dieu, c'est de voir les églises grandir. C'est de voir la croissance. Ce n'est pas un luxe. C'est le désir de Dieu. C'est l'aspiration de Dieu. Et c'est cette vision-là qui va nous permettre de nous projeter. C'est cette vision-là qui va nous permettre d'envisager l'avenir. C'est autour de cette vision qu'il nous faudra construire le projet de l'Église. Une vision, c'est un objectif qu'on doit atteindre. Et un projet, c'est comment on atteint l'objectif. Une vision sans un projet, ça reste un rêve. C'est le projet qui permet à la vision de devenir réalité. On a besoin d'un projet. Je trouve que c'est vraiment providentiel que la formation régionale, qui a fait sa première session vendredi et samedi, je trouve que c'est providentiel que ce soit Daniel Lichty qui était invité, parce qu'il a enseigné sur la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église et comment les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à remplir cette mission. Et ça tombe juste à ce moment-là. Alors, j'avais évidemment déjà commencé à préparer le message. Je l'ai terminé hier, non, aujourd'hui, à 2h30, parce que le week-end était bien chargé. Mais c'est vraiment cette fondation-là qu'on a pu partager ensemble. Et notamment, il y a quelque chose qu'il a dit, parce qu'on se dit, oh là là, un projet et tout, mais comment est-ce qu'on peut savoir que notre projet est le bon ? Mais on n'a pas la responsabilité des résultats dans notre vision et dans notre projet. On n'a pas la responsabilité des résultats parce que c'est Dieu qui parle au cœur. Et chacun chemine. Et quelqu'un peut décider ou pas de recevoir l'Évangile. Ça, c'est Dieu qui agit et c'est la personne qui choisit. Nous, on n'est pas là pour forcer, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on est là pour proclamer, et en proclamant, pour proposer. Mais chacun reste libre par rapport à ce message-là. On n'a pas la responsabilité des résultats. Par contre, nous avons la responsabilité des moyens. C'est le rôle de Dieu d'accomplir la vision, mais c'est le rôle de l'Église de réunir les moyens pour atteindre cette vision. Et on va relire ce texte qu'on trouve dans Marc, parce que c'est exactement la pensée qu'on trouve du verset 26 au verset 29, lorsque Jésus donne cette parabole. Et il dit, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Voilà ce que nous sommes chargés de proclamer. Un homme lance de la semence dans son champ. Ensuite, il va dormir durant la nuit, et il se lève chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même la récolte. D'abord la tige des plantes, puis l'épi vert, et enfin le grain bien formé dans l'épi. Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Il y a quelque chose qui n'appartient pas à celui qui a semé la graine. La graine, elle est en terre, Et la graine, de manière automatique, elle va germer, elle va pousser et elle va donner du fruit. Ça, c'est ce qui appartient à Dieu. Mais par contre, pour que cette semence porte du fruit, il faut qu'elle soit lancée. Et puis, il faut qu'elle soit moissonnée aussi. Donc, il y a ce que Dieu accomplit dans l'invisible, dans le spirituel. Et c'est là-dessus qu'on doit fonder notre vision. Et puis, il y a ce qui nous revient de faire, les gestes qui nous revient d'accomplir. Et ça revient aux moyens que nous nous donnerons pour accomplir cette vision, pour aller vers cet objectif. L'action de l'Église, elle est intentionnelle. Les choses qui se passeront, ce sont les choses auxquelles nous aspirerons. Si on n'aspire à rien de particulier, il ne se passera rien de particulier. Mais si on aspire, si on cale notre aspiration sur l'aspiration de Dieu, il y a de fortes chances que Dieu accomplisse sa volonté. On a besoin de cette vision, parce que cette vision, elle va nous inspirer. Elle va nous inspirer, on va s'équiper en fonction de la vision, et on va là mettre en place ce projet pour atteindre cette vision. Mais avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui va nous guider. L'intention de l'Église, elle est guidée par la volonté de Dieu. Mais sincèrement, si on ne voit pas les choses avant de les voir, on ne les verra jamais. C'est bon, ça. Je le redis, parce que si on ne voit pas les choses avant de les voir, on ne les verra jamais. C'est comme une devise, en fait. Quatrième point, ce dont l'Église a besoin. Une provision. Jésus a donné la vision, mais il y a la provision aussi. La feuille de route, elle est donnée par Jésus, et elle est claire, la feuille de route. Vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde. Mais les disciples ont dû attendre 10 jours avant de commencer à accomplir la mission qu'il leur est confiée. S'ils étaient partis au bout de 5 jours, ils n'auraient pas eu les résultats qu'ils ont eus. S'ils étaient partis au bout de 7 jours, non plus. S'ils étaient partis au bout de 9 jours, ils n'auraient pas eu les résultats. Ils n'auraient pas vu la vision s'accomplir. Pourquoi ? Parce que Jésus leur a dit, vous restez à Jérusalem pour l'instant parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. On l'a lu tout à l'heure. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous équiper. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la puissance dont vous avez besoin pour que la vision que je vous donne puisse s'accomplir. C'est le Saint-Esprit qui va vous permettre de franchir les différentes étapes pour l'accomplissement de la vision. Et dans la suite du livre des Actes, nous voyons comment chaque étape, Jérusalem, la Judée, Samarie et les extrémités du monde, sont franchis grâce au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est tout le temps là. Il est nommé plusieurs fois dans le livre des Actes. Et il est comme en filigrane dans tout ce qui se passe, du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre du livre des Actes. Mais pour que le Saint-Esprit vienne et pour qu'il puisse être équipé de cette puissance, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est un don. Il est envoyé par Dieu, mais ils se sont réunis régulièrement pour prier. C'est un des textes que Ulrich a partagé avec nous au tout début. On y revient, c'est les versets 13 à 14. Ils furent arrivés à Jérusalem et montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, rassemblement régulier, c'est propre à l'Église, en haut d'une maison, dans la chambre haute. Donc il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, tous les disciples, Thomas. Et verset 14, tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils se réunissaient tous ensemble pour prier. Et j'imagine bien quand même que dans leur prière, il y avait Jésus, tu nous as fait une promesse. Tu nous as dit qu'on recevrait une puissance. Alors donne ta puissance, envoie ta puissance. Les disciples se sont réunis dans cette aspiration à recevoir le Saint-Esprit pour accomplir la vision qu'ils avaient reçue de la part de Jésus. Il y a quelque chose qui est vraiment rassurant, je pense, et je crois vraiment que ça peut nous aider à vivre les choses sans stress. Quand on est face à l'inconnu, assez facilement, on se dit « wow, 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 comment ça va se passer ?» Et ça peut créer une espèce de sentiment d'inquiétude, sinon d'insécurité. Mais quand on lit le livre des Actes des apôtres, alors qu'ils sont au seuil d'une mission incroyable, ils sont à Jérusalem, on leur dit, mais voilà, allez jusqu'aux extrémités du monde, comment on va faire? Ils sont au seuil de ça, mais ils ont cette promesse de Jésus. Ils ont cette promesse que Jésus va accomplir son œuvre. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il le fait avec nous, mais il le fait par l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. Et on a l'assurance de ne jamais de ne jamais être seul pour remplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Jamais, à aucun moment. Ça dépend de notre foi, ça dépend de notre désir d'être rempli du Saint-Esprit, ça dépend de notre volonté de nous unir pour réclamer cette puissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance pour que sa volonté s'accomplisse. Lorsque le jour de la Pentecôte est venu, le Saint-Esprit est venu, il y a eu un vent qui a soufflé et il nous est dit qu'il y a des langues de feu qui sont descendues et qui se sont posées sur la tête de chaque disciple. Ce n'est pas une boule de feu qui est tombée sur tout le monde, c'est une flamme sur chaque tête. Ça veut dire que chacun, on est appelé à recevoir une onction, une part de cette puissance. Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous donne des dons, nous donne des talents. Et on est appelé à être complémentaires les uns les autres et à nous unir dans cette complémentarité pour accomplir cette mission. Là, sérieux, vous pouvez dire amen, là.
Amen.
Même mieux que ça.
Amen.
Amen. On va commencer à s'unir là-dessus. Parce que il nous revient quand même, nous, notre part à faire, c'est de le vouloir. C'est d'y aspirer. Et pas simplement d'y aspirer, de le rechercher. Alors moi, je ne sais pas du tout encore, parce que ça fait partie des choses qu'on partage dans le conseil spirituel, et on prie pour ça, et on n'a pas forcément encore une vision claire de comment les choses pourront se faire. Mais il y aura certainement une démarche communautaire à accomplir. Qu'on recherche la présence du Saint-Esprit pour notre vie, pour notre ministère, pour nos dons, ça c'est une chose, c'est bon. Si vous le faites, continuez de le faire. Demandez au Seigneur qui vous guide, qui vous inspire, qui vous développe les talents, les richesses qu'il a, le potentiel qu'il a déposé en vous. Mais il faudra sans doute qu'on pense à faire ça ensemble. Parce que cette mission-là, ce n'est pas chacun de notre côté qu'on va la remplir. C'est tous ensemble, main dans la main, comme ces pierres soudées qui constituent le temple du Saint-Esprit, qui constituent l'Église. Et puis, le dernier point que je voudrais partager avec vous et qui est évoqué par Jésus, c'est que l'Église a besoin de réaliser, nous avons besoin de réaliser que nous sommes continuellement en progression. Peut-être qu'on ne se sent pas à la hauteur de ce que Jésus a prévu pour l'Église. On lit ça, on peut trouver ça très exaltant, je dis, mais oh là là, moi, quel rôle je peux jouer? Pff, c'est un truc gigantesque, moi, comme si j'étais un lilliputien au pied de l'Everest, quoi. Ça me dépasse. Je ne suis pas assez sûr de moi, je n'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas vaillant, je ne suis pas quelqu'un de très bien. Je ne suis pas la bonne personne, moi, pour pouvoir accomplir ce genre de choses extraordinaires. Moi, ma vie, elle est très ordinaire. Et ben, bonne nouvelle, il se trouve que les disciples qui ont été à l'origine de l'Église, c'était des personnes très ordinaires, très ordinaires. Ce n'étaient pas des personnes accomplies, ce n'étaient pas des personnes sans faille. Quand on voit le boulot qu'un Pierre a accompli, mais quand on voit le gars qu'il était, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais on peut revenir là-dessus, on peut prendre l'exemple de Pierre, parce qu'il est tellement parlant. Pierre, à la base, c'est quelqu'un qui est plutôt instable. Je crois que c'est le bon mot, instable. Quand il dit à Jésus qu'il est prêt à mourir pour lui, il dit, bah, toi, tous les autres, là, les 11 autres apôtres, peut-être qu'eux, ils t'abandonneront, mais alors moi, tu peux compter sur moi. Quelques heures après, qu'est-ce qui se passe? Il se défile. C'est ça, Pierre. C'est pas preuve de fermeté, c'est pas preuve de stabilité, ça. Et puis, c'est pas le seul. Jacques et Jean, un jour, Jésus se dirige sur Jérusalem, et puis il passe par la Samarie. Et puis, comme les Judéens et les Samaritains ne s'entendaient pas, les Samaritains, comme ils savent qu'ils vont à Jérusalem, ils ne vont pas accepter de les héberger. Parce que Jacques et Jean, les disciples ont demandé, hein, il n'y avait pas d'hôtel à l'époque, donc quand on était en voyage, on demandait l'hospitalité dans les maisons. Et Samaritain dit, non, vous allez à Jérusalem, on ne va pas vous accueillir. Et Jacques et Jean, ils vont vers Jésus, ils disent, est-ce que tu veux qu'on demande que le feu de Dieu tombe sur les Samaritains? Parce qu'en fait, les Judéens et les Samaritains, ils n'adoraient pas au même endroit. Les Judéens adoraient à Jérusalem et les Samaritains au Garizim. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas reçus. Ils disent, eux, ils méritent vraiment d'être foudroyés. Il y avait un préjugé même d'ordre ethnique, pour ne pas dire racial, hein, parce que les Samaritains, c'était les descendants de Juifs qui s'étaient mariés avec des étrangers. Et donc, il y avait vraiment tout cet ensemble de choses. Et c'est des gens qui sont... on est à la limite du racisme, hein, si ce n'est pas du racisme, là, dire oh, « non, ce n'est pas des gens bien, il faut qu'ils disparaissent ». Jacques et Jean, ce sont ceux aussi qui vont aller voir Jésus pour dire « Hé !» quand le royaume de Dieu viendra, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on soit à ta gauche et à ta droite. Vous voyez, les pêcheurs, ils disent, on va pouvoir devenir premier ministre dans le royaume de Dieu. Ascension sociale, hyper rapide. Alors, les autres apôtres, ils disent, mais oh, ça va, pourquoi? Ils les ont scandalisés. Vous voyez un peu ce qu'il y avait dans le cœur de Jacques et Jean. Et puis, on a Thomas aussi. Thomas, il est pas mal, lui. Hein. Lui qui doute. Lui, il a toujours l'air un peu résigné. Quand Jésus dit, bon, allez, on va aller à Jérusalem, il dit, bon, ok, allez, on va mourir avec toi. Le gars, bien motivé. Jésus ressuscite, il n'était pas là, il dit, ouais, non, 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 ça, c'est des blagues. Vous dites que vous avez vu Jésus, mais moi, si je le touche pas... Il est rempli de doutes. Mais ces gens-là, ce sont les gens qu'on trouve à l'origine de l'Église, à l'origine de cette vision fantastique, au pied de cet Everest. Ce sont des gens ordinaires, aux comportements et aux paroles qui ne sont pas toujours convenables, pas toujours correctes, qui sont confrontés à leurs faiblesses. Mais ils ont en commun quelque chose. C'est qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. Ils ont accepté de suivre Jésus et ils ont accepté de l'écouter. Et ça, ça a changé leur vie. Et à partir du moment où ils ont répondu à cet appel « Suis-moi », il y a quelque chose qui s'est mis en route. Quelque chose qui a commencé. Et leur vie a commencé à changer. Et ça, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ils ont eu besoin de cheminer. Il a fallu qu'ils relisent leur histoire personnelle et qu'ils en fassent quelque chose d'autre avec l'aide de Jésus. Mais parce qu'ils se sont personnellement attachés à Jésus, parce qu'ils ont fait le choix d'être ses disciples et de recevoir sa parole, leur vie a pris une nouvelle orientation. Et c'est cette démarche qui a permis à Pierre de mettre sa passion, de mettre son énergie au service de la prédication de l'Évangile. On voit dans le livre des Actes comment il devient inébranlable face à la persécution. Il se carapate quand Jésus est arrêté, mais après, on le voit, il va deux fois en prison. Et il dit, j'ai pas peur de vous, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et alors qu'on fait des menaces pour qu'il arrête de prêcher, il y retourne, il se reprend des coups, mais il y retourne. Il a acquis quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est pareil, Jacques et Jean, ils aimaient pas les Samaritains. Mais lorsque Philippe va annoncer l'Évangile en Samarie, à Jérusalem, ils vont avoir envie de savoir ce qui se passe. Ils vont dire, tiens, il y a les Samaritains qui acceptent l'Évangile. Alors Pierre et Jean, vous allez aller voir. Pierre et Jean. Et il nous est dit que Jean va prier avec Pierre pour que le Saint-Esprit vienne sur les Samaritains. Et quand ils vont retourner à Jérusalem, il va annoncer l'Évangile aux Samaritains. C'est dans le texte. Il voulait quelque temps avant que le feu tombe. Et maintenant, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime. Il s'est passé un truc quand même. Hein. Ce n'est pas venu d'un seul coup. Il a fallu qu'il chemine. Mais c'est venu. Pierre, pour autant, n'est pas devenu parfait. Quand vous lisez Galates, il nous est dit qu'à Antioche, il mangeait avec les chrétiens qui étaient païens d'origine. Mais voilà qu'un jour, il y a des juifs convertis qui viennent. Et comme c'était mal vu pour des juifs de manger avec des païens, en raison, vous savez, des codes alimentaires, c'est-à-dire des aliments purs, des aliments impurs, il va se cacher. Pourtant, ça, c'est après. Et Paul va lui dire, mais t'es un hypocrite. Là, si tu manges avec les païens, avec ceux qui sont d'origine païenne, avant que les juifs viennent, enfin bon, voilà, vous avez compris l'explication ? Bon, je ne m'attarde pas. Il dit, ça ne se fait pas, t'es un hypocrite. Donc, il continue de cheminer, Pierre. Il n'est pas encore accompli, il n'est pas encore parfait. Mais on voit comment cette démarche, le fait de recevoir Jésus comme Seigneur, ça permet aux uns et aux autres de surmonter leurs faiblesses de caractère, leurs préjugés, toutes ces choses-là. Les chrétiens, ce sont des personnes ordinaires avec lesquelles Dieu fait des choses extraordinaires. Les chrétiens, ce sont des personnes ordinaires dans lesquelles Dieu fait des choses extraordinaires. L'Église n'a jamais été composée de personnes parfaites et pleinement accomplies. L'Église a toujours été composée de personnes en cheminement. Chercher la perfection dans l'Église est une illusion. Ne vous fatiguez pas à cela. Elle sera toujours accessible aux critiques sur ce plan-là. Je dis ça parce qu'on peut se servir de cela. On peut se servir de cela pour ne pas se positionner par rapport à l'Évangile. Ah ouais, 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 tu me parles de Jésus, tu me parles là de l'amour, tu me parles, mais regarde, là, un tel dans l'Église, hein, ou toi. Alors, ça peut être une bonne excuse pour prendre ses distances et ne pas, pleinement accepté l'Évangile, vous voyez. Mais ça peut servir d'excuse pour justifier ses propres manquements. Ah oui, c'est vrai, je suis pas dans les clous, hein, j'obéis pas vraiment à Dieu, je n'applique pas la parole de Dieu, mais moi j'en connais dans l'Église, c'est pareil, c'est même pire. Tu sais, tu n'as pas besoin de regarder les gens autour de toi pour voir que l'Église n'est pas parfaite, parce que les gens imparfaits qui composent l'Église, on les trouve déjà dans la Bible. Lis la Bible. Pierre, tu peux dire, mais c'est vraiment un hypocrite, ce gars-là. Ou alors, quand Paul et Barnabas se sont disputés à propos de Marc, quand ils devaient repartir en voyage missionnaire, Barnabas dit, allez, on emmène Marc, son cousin, avec nous. Puis Paul, il dit, non, dans le premier voyage missionnaire, il n'est pas allé jusqu'au bout, donc pas envie qu'il vienne. Et ils se disputent. On va dire, oh là là, les leaders de l'Église, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils se disputent. Ben, vous voyez, ça se passe bien, hein. Il n'y a pas de problème. Ici à Angers, je ne justifie rien bibliquement. Il ne faut pas que ce soit une excuse, bien sûr, hein. On est en cheminement. Mais déjà, ce n'est pas à Pierre, ce n'est pas à Paul, ce n'est pas à Saint-Pierre, ce n'est pas à Saint-Paul, ce n'est pas à Saint-Barnabas qu'il faut regarder. Mais c'est à Christ. C'est à celui que nous avons accepté comme notre sauveur. Je vais terminer avec ce verset. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église sainte après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. L'eau, ça peut être l'image du Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre de purification en nous. La parole, elle est là, elle nous donne une indication, mais pour vivre la parole, on a besoin de l'Esprit, on a besoin de la présence de Dieu, on a besoin d'une action de Dieu au plus profond de chacun d'entre nous. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. C'est Christ qui accomplit cette œuvre de changement, de purification. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde à Christ. C'est lui qui doit nous inspirer. C'est lui qui doit nous influencer. C'est pas les autres hommes, les autres femmes qui nous entourent et qui, eux, sont en cheminement. Nous sommes tous en cheminement. On pourra toujours trouver un défaut chez les personnes qui sont dans cette marche vers l'accomplissement. Mais Christ, il est parfait. Christ nous accompagne dans notre progression. Et cette progression, elle est nécessaire, afin que nous puissions nous unir ensemble, afin que nous puissions construire ensemble, afin que nous puissions bâtir ensemble. Il faut que Christ agisse dans chacun d'entre nous. C'est celui qui me guide vers mon accomplissement. C'est celui qui fait que les choses peuvent changer, comme il le fait dans les autres personnes de l'Église. Je suis en cheminement, mais celle qui est à côté de moi, la personne qui est à côté de moi, elle est en cheminement. On est chacun en cheminement, mais les uns les autres, et l'Église, elle existe pour ça. On s'exhorte, on s'édifie. On a besoin d'être ensemble parce que, on en reparlera de ça, mais c'est parce que c'est quand on est ensemble qu'on est mis face à nous-mêmes. On a besoin les uns des autres. Ce n'est pas toujours agréable. On a vu que la pierre, des fois, hein, qui constitue le temple, a besoin d'être taillée, elle a besoin d'être ajustée. Mais il faut que ce soit l'Esprit qui le fasse, que l'Esprit nous éclaire et que dans les relations que nous avons les uns avec les autres, que ce soit des relations amicales, des relations fraternelles, mais les relations que nous avons au niveau de notre engagement, là, dans ce que nous faisons dans l'Église, eh bien que nous puissions vraiment laisser Christ accomplir cette œuvre en nous, dans ce cheminement. Il est celui qui nous guide, il est celui qui nous motive, il est celui qui nous accompagne. Et ce travail qui se fait dans mon cœur, ce travail qui se fait dans ton cœur, c'est ce qui va permettre de gravir l'Everest. C'est ce qui fait que quelque chose qui peut... Nous tous qui sommes faibles et ordinaires, nous allons pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Ça revient à Dieu. Notre rôle, c'est d'y aspirer, c'est d'y croire. Et c'est de demander au Seigneur, viens accomplir cette œuvre en nous. Viens, là je veux cheminer avec toi, je veux grandir, je veux progresser. Mais je veux le faire non seulement pour ce que ça va m'apporter personnellement et pour la bénédiction que ça va représenter pour ceux qui m'entourent, mais je veux le faire aussi pour devenir cette pierre fonctionnelle, devenir cette pierre qui est indispensable à l'édifice et qui va faire qu'il y a une lumière là, qui va se diffuser dans cette ville, dans ce lieu, là où nous sommes placés. On prie ensemble et on reprendra ce chant, j'irai. et on le fera monter vers Dieu comme une prière, que ça puisse vraiment concrétiser notre aspiration et qu'on puisse ce matin s'unir dans cette aspiration. Seigneur, merci pour ta parole parce que c'est elle qui nous explique comment nous devons envisager l'Église. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu nous révèles. Merci Seigneur parce que nous voulons être unis sur cette parole, sur la base de cette parole. Nous voulons vraiment voir comment l'Église s'est construite, comment tu as bâti ton Église. Alors donne-nous cette intelligence dont nous avons besoin, alors que nous ouvrons la parole ensemble, que nous revenons à chacun de ces versets. Éclaire notre intelligence, comme tu l'as fait pour les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, comme tu l'as fait pour chacun de tes disciples auxquels tu as expliqué l'Écriture. Viens nous éclairer sur l'Église, viens nous éclairer sur la mission de l'Église. Corrige-nous si nous avons une vision erronée de l'Église. On veut se laisser modeler par toi, on veut se laisser influencer par toi. Alors si là nous avons besoin d'être réorientés dans notre vision de l'Église, si j'ai besoin d'être réorienté dans ma vision de l'Église, viens accomplir cela. Il y a des choses que j'ai besoin de saisir, il y a des choses que je croyais et qui ne sont pas forcément exactes. Mais il y a des choses aussi que je suis appelé à découvrir. S'il te plaît, que par ton esprit tu nous bénisses dans ces moments où nous ouvrons ta parole, pour que tu nous orientes, pour que tu nous guides. Nous voulons construire la meilleure église possible. Mais Seigneur, cette église idéale, on n'aura pas les moyens de le faire, Seigneur. Mais unis-nous sur cette vision qui nous permettra tous ensemble d'aller dans une même direction. Tous ensemble, autour de cette vision, ça va créer une aspiration dans nos cœurs. Et Seigneur, donne-nous la provision. Je te remets ces moments que nous sommes appelés à vivre, personnellement, dans notre recherche personnelle du Saint-Esprit. Mais je te remets ce moment collectif, communautaire. Toi seul, tu sais comment ça va se passer. Tu connais le temps. Mais on fait monter cette prière ensemble vers toi. Que ce soit un dimanche matin, que ce soit dans le cadre de la soirée des intercesseurs, que ce soit sur un autre événement. Qu'importe, Seigneur, mais l'important, c'est que les uns et les autres, tu nous unisses dans cette nécessité que nous avons de nous retrouver et de te demander, viens nous équiper, viens nous donner tout ce dont nous avons besoin pour remplir cette mission, pour aller dans la vision que tu nous as communiquée, pour aller vers cette vision de la multiplication. Nous sommes sans force, sans puissance, mais nous sommes en cheminement, Seigneur. Alors bénis-nous et accompagne-nous. Guide-nous, motive-nous. Viens par ton esprit, Seigneur Dieu. Nous renouveler, nous fortifier. Afin, Seigneur Jésus, que tu accomplisses ce qui est nécessaire en nous. Et que parce que tu fais cette œuvre en nous, il va y avoir quelque chose de puissant et de fort qui va se manifester. Quelque chose de puissant et de fort qui va se dégager. Des choses qui vont nous étonner. Des choses qui vont nous émerveiller. Des choses qui vont nous amener à te glorifier, à te louer, à t'adorer. Peut-être comme jamais on ne l'a fait auparavant. Parce qu'on va voir ta gloire éclater, Seigneur. On n'en a pas les moyens, mais toi, par ton esprit, tu nous le donnes parce que tu agis en nous, tu agis pour nous. Et tu nous équipes pour remplir, Seigneur, cette mission, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre la direction que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi qui ouvres la porte. Et là où tu veux que nous allions, nous irons, Seigneur. Nous voulons t'obéir, nous voulons entendre ta voix. On ne veut pas être agrippé par notre passé personnel, agrippé, Seigneur, par même le passé de cette Église, où il y a eu de bonnes choses de faites, mais au contraire, on veut rebondir là-dessus, on veut bâtir là-dessus, pour aller, Seigneur, dans les eaux où tu veux nous emmener, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pour que Jésus, Seigneur, soit encore plus connu. Pour que ce monde puisse recevoir l'espoir que tu représentes. Amen. Alléluia. Montre-nous la voie, Seigneur Jésus. Montre-nous la voie pour que nous la suivions, Seigneur.